Voilà, donc on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Cette nuit à 5h45, je me suis réveillé. Vous dormiez tous, n'est-ce pas?
Non. J'étais réveillé et je lisais.
Alors, moi, je me suis réveillé parce que j'ai fait un rêve. Un rêve qui m'a fait transpirer. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'était. J'étais observateur d'une scène. Il y avait là des gens. Et manifestement, c'était dans, quelque part, dans les lieux célestes. En tout cas, il y avait des gens qui étaient là. Et puis, il y avait un lieu plus lointain où il se passait des choses qui avaient l'air agréables. Et, mais avant ça, en fait, il y avait une porte fermée. Et donc, à un moment, la porte s'ouvre, effectivement, et on voit... En profondeur, il y a une perspective comme ça, de profondeur, et on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe et qui semble attractif. Et donc, je vois une personne qui se lève pour y aller, pour aller vers cette direction-là. Et au moment où cette personne se lève pour partir, je vois que son pied est attaché à une chaîne. Et que donc la chaîne a une certaine distance, une certaine longueur, et que juste arrivé à l'entrée, ça s'arrête. Il n'y a plus la possibilité d'avancer. Et la porte se referme. Et j'ai eu un sentiment profond de tristesse. En observant cette scène, j'étais vraiment troublé. Parce que j'ai compris qu'il y avait là quelque chose qui était visible. Pour moi, c'était une sorte de vision de l'enfer, en réalité. Il y avait pour cette personne quelque chose de visible, de quasi accessible, mais que de façon absolument éternelle, il ne rentrerait pas dans cet endroit qu'ils peuvent voir. Et que finalement, ils étaient dans un état où ils regrettaient amèrement de n'avoir pas pu régler le différend qui les séparait de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils aimeraient tellement participer. Mais en réalité, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et éternellement, ils regretteront de ne pas avoir saisi l'opportunité de régler le différend qui les séparait de Dieu et maintenant, ils sont séparés de façon permanente. Et quelque part, pour eux, l'enfer, c'était de voir, d'avoir une vision de ce qu'ils auraient pu vivre, mais qu'en réalité, ils sont empêchés de vivre à cause de ce différend qui les séparait de Dieu. Je vous assure, et je suis encore remué par cette vision de cette nuit à 5h45. Toi, tu étais réveillé. Et moi, ça m'a réveillé. Voilà. Et donc... je ne sais pas si c'est une bonne introduction à ce que je vais dire là, mais je voulais vraiment vous partager ça. On va lire le psaume 22, si je pense que ça fait un peu le lien. Le psaume 22, qui est donné comme un psaume de David, mais qui en réalité est un psaume de Jésus, et qui ne parle que de Jésus. C'est donc David qui a pris sa plume, qui a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit et qui a rédigé des mots, là, qui a écrit des mots, couché des mots sur le papier, mais qui finalement, peut-être, il se sentait un peu concerné quand il l'écrivait, mais ne le concernait pas, il concernait essentiellement Jésus. Donc je vais le lire et je vais le lire en entier. Bon, j'espère que j'aurai assez de salive. C'est important d'avoir le contexte. Mon Dieu, au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Voilà, donc dans la tradition juive, ce texte parle, pour eux, le texte parle de d'Israël, parle du peuple d'Israël. Mais on voit bien que ici, il n'y a rien qui concerne David. Et. Donc les juifs, donc ils disent que bon, ça concerne la souffrance d'Israël pendant l'exil, pendant les différents exils qu'ils ont vécus, et ça décrit leur souffrance, l'humiliation, la persécution d'Israël. Dans le psaume, dans ce psaume. On lit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas ? C'est une phrase qu'on connaît beaucoup plus de Jésus que de David, en réalité. Quand on le lit, c'est parce que Jésus est sur la croix. Et à ce moment-là, il pose cette question « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans l'évangile de Matthieu, justement, Matthieu 27, on peut le lire au verset 45. En fait, on lit, cet accomplissement d'une prophétie qui n'est pas dite comme une prophétie, mais qui est dans ce psaume, n'est-ce pas? Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur la terre, au verset 45, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» Vous comprenez?
La traduction, d'ailleurs.
En réalité, c'est important que les écrivains des évangiles ont, dans Marc, Matthieu et Marc, ont conservé la terminologie que Jésus a employée. Et ça signifie...
C'est de l'hébreu?
C'est de l'hébreu ou de l'araméen plutôt. Et avec une nuance entre Marc et Matthieu. Dans Matthieu, c'est Eli, Eli. Et dans Marc, c'est Eloi, Eloi. Et ce serait... Voilà, ce serait des différences de sonorité en ce qui concerne les écrivains, quoi. Mais bon, ça veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne sais pas comment vous comprenez le ministère de Jésus. Quelle image vous en avez? Il est venu, ok, sur la terre, il a fait tout ce qu'il a fait. Mais comment est-ce qu'on le reçoit? Pour moi, c'est un ministère d'amour. Il a aimé tous les gens qu'il a rencontrés. Il a eu des discussions fortes avec les gens, n'est-ce pas? Avec notamment les pharisiens. Mais il les aimait quand même. Et il l'a dit, hein, c'est pour vous sauver que je parle comme je parle. Mais il y avait aussi chez Jésus, n'est-ce pas, cette volonté de pas dire des mots inutiles. Nous, quand on a des discussions, quand on parle, je ne sais pas si on pouvait faire une sorte des statistiques sur les mots qu'on utilise et qui sont inutiles, ce serait intéressant, n'est-ce pas, et peut-être que Dieu le fait, j'en sais rien, mais tous les mots qui sont inutiles dans notre vie. Déjà, toutes les onomatopées, et puis ensuite, les expressions émotionnelles, tout ça. Bon, ça veut dire des choses, mais est-ce que Jésus était un homme qui disait des mots inutiles? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il avait une volonté, c'était d'être juste dans tout ce qu'il disait. Et en étant juste dans tout ce qu'il disait, il manifestait quoi? La justice de Dieu, en fait. Et donc, c'est un ministère d'amour et un ministère de justice pour l'humanité. Et il y avait autre chose aussi, n'est-ce pas? Il faisait des miracles. Il délivrait des hommes ou des femmes qui avaient des démons. Il guérissait des gens qui étaient malades. Et donc, en faisant ça, il démontrait quoi? La puissance de Dieu. Donc c'était aussi un ministère de puissance, une démonstration de puissance et d'autorité face à la puissance de Satan et des démons. Je ne sais pas si vous croyez à Satan et aux démons, mais si vous ne croyez pas à Satan et aux démons, alors ce n'est pas la peine de croire en Dieu, en fait. Ça ne sert à rien. Et donc, tous les mots et tous les actes de Jésus ont de l'importance, au-delà même de notre compréhension. Maintenant, on a la parole, la Bible, qui est le témoignage que Dieu a voulu nous laisser à nous, humains, pour que nous comprenions les choses. Et donc, si Dieu nous a laissé cette parole, c'est pour qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions recevoir pleinement ce qu'il veut nous dire. Et donc, comme Pâques n'est pas très loin derrière nous, j'aimerais aborder juste deux aspects dans ce psaume. L'aspect où donc Jésus est sur la croix et il pose cette question à son Père, pourquoi? Et on va essayer de comprendre ce que signifie réellement cette question. Voilà. Et aussi montrer comment, dans ce psaume, finalement, l'Église est déjà présente. Alors, dans le psaume, donc, Jésus répète des phrases qu'il sait être présentes dans le psaume. Donc la première des questions que vous pouvez se poser, c'est est-ce que quand il est sur la croix, il se dit, ah oui, attends, il faut que la prophétie se réalise, donc j'ai encore cette phrase à dire avant de mourir, donc je vais, ah voilà, maintenant, je l'ai, voilà, père, okay. Donc certains, peut-être des athées, pour se moquer des chrétiens, c'est un peu ce genre de choses qu'ils diraient, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas que ce soit comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui a surgi naturellement de la bouche de Jésus. Et il a dit cette phrase, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais quand on pose une question, quand on pose un pourquoi, vous savez que c'est une façon de résoudre un problème, le pourquoi. Pourquoi ? Ensuite, pourquoi ? Ensuite, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et on essaye d'arriver à une solution comme ça. Alors, donc, est-ce que Jésus était en train de demander à Dieu de résoudre un problème qui surgissait dans son esprit ? Est-ce que, pourquoi est-ce que ma situation est si difficile, par exemple ? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de demander à son Père ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ? Et là, c'est important, n'est-ce pas, de bien comprendre ça. Est-ce que vous pensez que Dieu avait abandonné Jésus ? Je ne vous demande pas de me répondre, mais je vous pose la question pour que ça vous mine pendant les prochains jours. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu a abandonné Jésus? Est-ce que Jésus était tellement submergé par l'émotion et par la souffrance au point qu'il avait l'impression d'être abandonné par son Père? Et dans ce cas, ça veut dire que Jésus ne contrôlait pas ne contrôlait plus rien. C'est-à-dire qu'il était submergé par ses émotions, ce qui, à mon avis, n'a jamais été le cas auparavant dans son ministère. C'est pas, et on ne peut pas dire que Jésus était surpris de ce qui lui arrivait, n'est-ce pas ? Parce qu'il l'a dit dans tous les évangiles à ses disciples, il avait prévenu ses disciples en leur disant « Je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir et je vais mourir. Je serai mis à mort. » Donc il le savait. Donc il n'était pas étonné de vivre ce qu'il était en train de vivre. Le pourquoi, c'est aussi parfois un reproche. Pourquoi tu m'as fait ça ? Et là, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose que Jésus est en train de reprocher à Dieu, puisque c'était entendu entre eux qu'il se passerait cela. Il n'y a pas de plainte non plus. C'est pourquoi est-ce que je dois souffrir ? Pourquoi est-ce que je dois... Nous, on est comme ça. Hein ? Pourquoi est-ce que je dois avoir mal ? Et les hommes, de moins en moins, supportent d'avoir mal, n'est-ce pas ? C'est presque aujourd'hui un droit, c'est devenu un droit de ne pas souffrir. Et il ne faut pas non plus penser que Jésus était désespéré. Il n'y a pas de désespoir dans ce pourquoi. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est « mon Dieu, encore combien de temps d'abandon avant que tu viennes à mon aide. » Autrement dit, ce n'est pas une question liée au désespoir et à l'angoisse, mais une question qui est lié au timing, au temps dans lequel on est. Lui et Dieu et le Saint-Esprit sont en train d'évoluer dans un temps. Et pour Jésus, c'est le temps de la souffrance. Pour Dieu, c'est le temps où il est en train d'accomplir le sacrifice. Jeannot a parlé du Yom Kippour tout à l'heure. Le Yom Kippour, c'était le jour où on sacrifiait pour le péché du peuple et du souverain sacrificateur. Et en fait, la crucifixion de Jésus, c'est le dernier Yom Kippour. C'est le moment où le souverain sacrificateur est en train d'accomplir le sacrifice. Et Dieu est le souverain sacrificateur. Et Jésus est l'agneau. Et donc, ce pourquoi annonce la fin. La fin est l'accomplissement du temps de la colère. Jésus, dans ses propos, dit à Dieu que tout est accompli et qu'il n'y a plus rien à payer. Que le sang a coulé, qu'il a pris tout sur lui. Ta colère, ô Dieu, je l'ai prise à la place des pécheurs. La coupe de souffrance, je l'ai bue à leur place. Ta justice divine est satisfaite. Il n'y a plus de dette pour le péché. C'est fini, tout est accompli. N'est-ce pas? Il y a un élément dans ce qu'on a lu, notamment dans Matthieu, qui est important et qui permet de comprendre ce qui se passe, et notamment ce timing. On va retourner dans Matthieu 27, au verset 45, on l'a déjà lu, mais je le relis. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» Autrement dit, la crucifixion commence, alors non pas à 6 heures, mais à midi. La sixième heure, c'est la sixième heure depuis le matin. Okay? Donc, depuis le matin, c'est la sixième heure. Pour nous, c'est midi. Et lorsque Jésus commence à prier, c'est la neuvième heure. C'est-à-dire qu'il est 15 heures. 3 heures se sont écoulées. Et donc, le contexte nous apprend que les ténèbres sont venues sur toute la terre à quelle heure? À midi. Au début de la crucifixion. Les ténèbres sont venues sur toute la terre à midi. Au début de la crucifixion. À quel endroit dans la Bible il y a des ténèbres qui sont venues en plein jour? Lors de la plaie, c'était la 9e, ou la 11e, je ne sais plus. Une plaie d'Égypte, n'est-ce pas, où Dieu a envoyé la nuit, et une nuit qui était à couper au couteau, même en plein jour. Et bien évidemment, cette nuit était une annonce prophétique de cette nuit que Dieu est en train d'envoyer maintenant. Puisque, si vous rappelez bien, dans l'Exode, cette nuit est apparue et seules les maisons sur lesquelles les linteaux et les montants étaient badigeonnés de sang allaient être épargnées par la mort du premier-né. N'est-ce pas? Il y avait de la lumière chez les Hébreux, il n'y en avait pas chez les Égyptiens. Et donc la nuit est venue. Et donc à midi, la nuit est venue, tout était sombre. Et à 9 heures, pardon, à 15h, la 9e heure, lorsque Jésus a crié, mais vous pouvez aussi dire lorsque Jésus a prié, c'est pareil, eh bien, les ténèbres sont parties. C'était qu'il annonçait à Dieu que le temps de la crucifixion était passé. C'était la fin du moment de la crucifixion. Qui est-ce qui a décidé du moment de la fin de la crucifixion? Ce n'est pas Dieu. C'est Jésus, au travers de sa prière, qui a annoncé à Dieu que ça y est, c'est fait. La coupe a été bue. La colère est passée. Et maintenant, c'est combien de temps encore dois-je rester dans l'abandon? N'est-ce pas? Et ça, ça marque la fin. À la 9e heure, à 15 heures, précisément à l'heure à laquelle Jésus a prié. Donc ce n'est pas un hasard si les ténèbres se sont levées à cet instant-là. C'est parce que ça correspond bien à ce moment de la prière de Jésus. Il se manifeste auprès de Dieu et c'est lui qui indique que c'est la fin du jugement, que c'est fini, que la rédemption est accomplie. Les ténèbres de l'abandon n'ont plus lieu d'être. Père, ta justice est satisfaite, ta colère est apaisée. Et désormais, tous ceux qui contempleront le Fils et qui croiront en lui seront sauvés. N'est-ce pas? Jésus n'était pas dans une position d'impuissance. Son cri a été le signal pour que le Père et le Saint-Esprit viennent pour arrêter le jugement et faire disparaître les ténèbres. Si vous retournez dans le psaume 22, on lit au verset 23, et là on comprend encore un peu mieux. N'est-ce pas, je répète, Jésus n'est pas dans la plainte, ni dans la crainte d'être abandonné, parce que, en fait, Dieu est en train d'être glorifié par son Fils. Et donc, au moment où il prie, Dieu intervient et les ténèbres disparaissent. Vous qui craignez l'Éternel, 24, verset 24, vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Je relis le verset 24. Il n'a ni mépris, Dieu n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. N'est-ce pas? Jésus était le misérable. Jésus était celui qui était sur la croix, et Jésus a été entendu par Dieu lorsqu'il a crié. Et les ténèbres, en conséquence, les ténèbres sont parties. Est-ce que vous comprenez ce qui se joue là? Ce qui se joue là, c'est la repentance. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a fait la première démarche de repentance que vous et moi, nous allons suivre plus tard. Lorsque nous, maintenant, imaginez que vous n'êtes, que ça n'est plus Jésus qui parle au verset 24, mais que c'est vous ou moi. Puisque Jésus nous a pris avec lui lorsqu'il est mort et ressuscité, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas lui qui prie là. Ce n'est pas lui le misérable. C'est vous et c'est moi. Et donc, si je me mets à la place au verset 24, Dieu n'a ni mépris ni dédain pour mes peines, à moi le misérable. Et il ne me cache pas sa face. mais il l'écoute quand je crie à lui. C'est ça que Jésus est en train de dire. Les paroles qui sont dans sa bouche sont les paroles qui vont devoir être dans votre bouche et dans ma bouche à un moment donné pour que le salut fasse son effet. Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé. Mais vous et moi, oui. Et ce sont ces paroles-là qu'il est en train de dire que nous-mêmes, nous allons nous approprier. Et c'est là que le salut intervient. Vous comprenez à quel point c'est important? Et les ténèbres disparaissent à ce moment-là. Dieu n'a pas abandonné Jésus. Et Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu n'a pas méprisé Jésus. Et il ne me méprise pas, il ne vous méprise pas. Au contraire, Dieu et le Saint-Esprit n'attendent qu'une chose. C'est que ce Jésus qui est en train d'être crucifié et qui est finalement, et qui nous représente, Dieu et le Saint-Esprit n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir venir au secours de ce Fils, au secours de ce misérable que vous êtes et que je suis, avant qu'il vienne. C'est magnifique. C'est magnifique. Ces paroles de Jésus, ce sont les vôtres. Ce sont les miennes. Et les ténèbres disparaissent. Waouh! C'est incroyable! Il y a un autre aspect que je voulais montrer, donc celui que je vous ai dit, qui est présent aussi, c'est la notion d'église est déjà présente dans ce texte. Pour rappeler. Ce passage où Jésus, dans une conversation avec Pierre, lui dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et donc, lorsque, au verset 23, donc ce qu'on vient de lire déjà, il est dit « Donc Jésus, dans le psaume 23, dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ce qui s'est passé sur la croix, c'est ce que j'appelle la grande traversée de Dieu. C'est le passage du sanctuaire de Pierre, le tabernacle, le temple, le passage du sanctuaire de la part de Dieu, qui était adoré, n'est-ce pas, dans un sanctuaire de pierre, c'est son passage dans un sanctuaire de chair. C'est ça que marque aussi la croix, n'est-ce pas, cette disparition de l'ancien pour l'apparition du nouveau, cette disparition du cœur de pierre, pour l'apparition dans un cœur de chair. Et donc, Dieu est en train de faire une traversée, et c'est symbolisé par quoi? Par le voile qui se déchire dans le temple, qui est la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, qui s'ouvre, et Dieu, à ce moment-là, s'engouffre dans son nouveau sanctuaire par le Saint-Esprit. Et donc, l'Ecclésia, donc cette assemblée que représentait Israël, c'est l'Ecclésia du désert, est devenue l'Ecclésia de notre cœur, l'Ecclésia de Christ. C'est comme ça que Dieu a accompli cette transformation, passer de son peuple, d'un peuple élu, d'un peuple choisi, au cœur de chair que nous sommes, pour former quoi? L'Église, pour bâtir son Église. Et donc, dans ce psaume 22, il est déjà en train de parler de cette Église qui va venir. Et dans Hébreux, au chapitre 9, vous lisez, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et donc c'est ça, hein, ce qui s'est passé sur la croix a été prophétisé dans le psaume 22. Et c'est explicité dans l'épître aux Hébreux. On va lire juste Hébreux 2, à partir du verset 7. Ça parle de Jésus. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. N'est-ce pas, si vous voulez glorifier Christ dans vos prières, eh bien vous pourriez lui dire, tu es mon prince, tu es le prince de mon salut. Hein? Les femmes peuvent dire ça à leur mari, au début du mariage. Après, ça change un peu, mais on peut le dire à Jésus tout le temps. Tu es mon prince. Tu es le prince de mon salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » N'est-ce pas? On vient de le lire, psaume 22. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'ecclésia. C'est Jésus qui parle. Je te célébrerai au milieu de l'église que je vais mettre en place. Jésus a dit, je bâtirai mon église, et là il dit, je célébrerai Dieu au milieu de mon église. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Mais il fait ça lorsque l'église se réunit. Il fait ça lorsque l'église est unie, que ce soit là dans une salle, ou que ce soit sur internet, ou n'importe où. Lorsque les chrétiens sont ensemble. N'est-ce pas? Certains disaient que... Et c'est vrai, les églises ne se réunissaient plus avec le Covid. Il n'y avait plus de réunions. Mais heureusement qu'il y avait Internet. Donc d'une certaine manière, on peut dire que c'est une bénédiction Internet. C'est quelque chose que Dieu a permis pour que l'église puisse continuer à se réunir. Vous ne croyez pas? Parce que Satan ne veut pas que l'église se réunisse. Bien au contraire. Parce que Jésus est en train de célébrer Dieu au travers de la voix de ses enfants, de ses frères, n'est-ce pas? Il est dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et donc ce sont les frères, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils chantent, qui célèbrent le nom de Dieu au milieu de l'assemblée. Et en réalité, c'est la parole et la célébration de Jésus qui arrive au cœur de Dieu. L'église que Jésus bâtit, c'est l'église qui célèbre Dieu du milieu de l'assemblée. Et Jésus est présent. Jésus est en son sein. Et la gloire de Dieu est manifestée par l'ensemble des croyants lorsqu'ils se réunissent au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'aimerais juste qu'on baisse nos têtes et qu'on prenne encore un petit temps de prière.